Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e numéro du confort dans l'habitat avec Promotelec. Nous allons aujourd'hui parler de qualité d'air intérieur dans les bâtiments et pour cela nous sommes heureux d'accueillir Nicolas Blondet, président de l'association pour la promotion de la qualité d'air intérieur. Bonjour Nicolas.
Bonjour à vous.
Et puis vous êtes habitué, notre invité permanent Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Le confort dans l'habitat, parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Oui, donc la qualité de l'air, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, qui a été ignoré pendant longtemps dans toutes les certifications, performances environnementales, énergétiques, etc. Et là, c'est un sujet qui commence à revenir. Alors, il y a l'air extérieur, il y a l'air intérieur. J'espère que vous allez pouvoir nous simplifier un peu tout ça et nous dire quels sont les vrais risques et surtout quelles sont les solutions.
Le confort dans l'habitat, l'invité.
Alors, Nicolas, avant de répondre à la question existentielle de Dominique, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'APQAI, l'Association pour la promotion de la qualité d'air intérieur, rapidement, et ses missions?
Alors, l'APQAI, c'est une association qui est née en 2016 et qui est active principalement maintenant. Tout simplement, la PQAI, c'est quoi? Effectivement, c'est 9 collèges qui regroupent différentes, je dirais, métiers de la profession et surtout entités de la profession et entités au global de la société civile, puisque le premier, pour nous, le plus important des collèges, puisqu'il y a 9 collèges, ce sont les consommateurs, associations de consommateurs et consommateurs à titre individuel, puisque si on sait pas s'adresser, si on ne voit pas les consommateurs, si on ne leur parle pas, on ne les écoute pas surtout, on ne saura pas leur parler convenablement et aller vers cette qualité d'air pour le développer. Après, pour les 9 autres collèges, on retrouve des professionnels de la promotion immobilière en bailleurs sociaux, on retrouve des promoteurs type privé, il y a des institutionnels, il y a des laboratoires, il y a également des professionnels de la santé, ça c'est très important, sinon on ne peut pas progresser pour savoir si notre démarche reste vertueuse. On va retrouver des bureaux d'études, des bureaux de mesures, des bureaux de contrôle, des architectes, on va retrouver également des industriels aussi, puisque la nature même fait que ils sont source de progrès par rapport aux évolutions qui sont suivies, par contre évidemment en termes de recherche et développement principalement, et également des installateurs, puisque si le bâtiment est bien fait, il va être vertueux.
Alors vous évoquiez deux mondes, malgré tout dans ces 9 collèges, le monde du bâtiment, de la construction, de l'installation, et puis aussi le monde de la santé. Quand on parle de qualité d'air intérieur, finalement, quelles sont les conséquences d'une mauvaise qualité d'air intérieur ?
Alors les conséquences d'une mauvaise qualité d'air intérieur, elles sont assez rapides, hein, généralement elles sont respiratoires, ou alors en termes d'allergies qui peuvent être aussi des allergies sur la peau, hein, puisque des concentrations de polluants peuvent aussi agir autant sur notre peau que à l'intérieur de nous-mêmes, et on va retrouver des affections respiratoires. Alors les plus fréquentes, les plus conséquentes qu'on revoit le plus, ça va être des problématiques d'asthme, notamment des problématiques d'allergie. Donc là, on va se retrouver avec des personnes qui, finalement, sont chez eux, pensent être préservées d'être chez eux, et finalement, pas spécialement, puisque c'est un chiffre que maintenant on connaît de plus en plus. Vous le disiez tout à l'heure, on parle de plus en plus de la qualité de l'air, et on sait que la qualité de l'air intérieur peut être 5 à 10 fois plus polluée que celle qui est à l'extérieur. Notamment parce qu'on y fait, c'est-à-dire on va vouloir le nettoyer, penser être vertueux, on va utiliser des produits, je dirais, d'entretien, qui vont avoir des concentrations qui peuvent être un petit peu gênantes, irritantes.
Le trop est parfois l'ennemi du bien sur les produits d'entretien, j'imagine.
En fait, la vie, c'est un... Si on veut paraphraser, la vie, c'est un équilibre. Et bien en fait, également dans ce qu'on doit faire dans notre vie, ça doit aussi être un équilibre. On doit nettoyer, mais pas à outrance. De même, si on veut passer, on en parlait encore il y a quelques jours, si on veut passer l'aspirateur chez soi, évidemment, l'aspirateur doit avoir un filtre d'un certain niveau. Mais si on le passe trop souvent, on va rebrasser énormément de particules qui vont affecter cela. Donc il faut raison garder, on pourrait utiliser le mot.
Et sur le bâti, alors... On le sait tous, dans la filière de l'acte de construction, on a aujourd'hui sur les bâtiments construits depuis l'égide de la réglementation thermique 2012 la notion de l'étanchéité à l'air du bâtiment qui n'était pas une préoccupation auparavant. Donc on a des bâtiments qui sont plus étanches qu'auparavant. On a aussi de vieux bâtiments qui sont quelque part des passoires par rapport à cette étanchéité. Où se situe le curseur par rapport à l'amélioration ou une action positive sur la qualité d'air intérieur ?
Alors, l'amélioration par rapport à la qualité de l'air intérieur, le curseur se situe pour les deux à des manières, à des niveaux, je dirais, différents, mais finalement dans le même objectif. Je m'explique. En ce qui concerne la qualité d'air intérieur pour un bâtiment neuf, on va s'assurer tout d'abord que les matériaux qui soient utilisés soient sains. on va et en bonne coordination et en bonne osmose les uns avec les autres pour éviter ce qu'on appelle nous dans notre jargon des effets cocktails, notamment, on va avoir également un bâtiment qui, du fait de son étanchéité, va avoir une nécessité d'avoir un bon brassage d'air dans ce logement, et d'autant plus également dans ce bâtiment qui va être fermé, on va en limiter la surchauffe, puisque si on s'arrête à la construction du bâtiment lui-même, on ne va pas assez loin. Il faut qu'on considère dans notre construction la vie des occupants à l'intérieur. Et si le bâtiment surchauffe et que les occupants y sont, ben là, ce qu'ils utilisent dans leur vie habituelle, on parlait tout à l'heure de produits d'entretien, on va avoir aussi d'autres éléments qui sont de l'aménagement, qui sont des vêtements et autres. Et ces éléments vont, par surchauffe, relarguer des polluants. Donc il va falloir le limiter, faire attention. Pour ce qui est du côté rénovation, ben en fait, on va s'attacher, quand on vient faire une rénovation, à améliorer le côté thermique, puisque c'est cela auquel on pense depuis 1973, et on évolue et on va vers la RE 2020. Et donc, on va avoir besoin non seulement de redevenir vertueux sur la consommation du logement, pour ne pas être en précarité énergétique, on en entend beaucoup parler, mais par contre, on va essayer aussi d'amener des brassages d'air qui n'existaient pas. Bien souvent, sur ces bâtiments très fuyards, il n'y avait pas spécialement ventilation ou naturel et mal dimensionné. Donc là, il va falloir repenser pour assurer un brassage d'air qui amène un renouvellement et un bien-être.
Donc il y a en fait des solutions techniques, technologiques qui viennent pallier ces problématiques-là. On parlait de ventilation. Mm-hmm. Je pense qu'on peut aussi, Dominique, parler d'objets connectés dans le logement qui peuvent amener des alertes, qui peuvent amener du pilotage par rapport à cela. Et là, c'est tout l'ADN de Promotelec qui peut aussi amener des réponses.
Oui, enfin, les objets connectés, ils sont là pour donner des alertes. Ils ne vont pas, malheureusement, trouver la solution. Ils sont là pour donner des warnings. Et après, il faut mettre en place des systèmes qui permettent d'y remédier. Et là, c'est un peu votre métier, c'est-à-dire comment on fait pour remédier quand on a un problème immédiat dans un appartement ou dans une maison.
Alors justement, par rapport à ces problèmes immédiats, nous, on a, je veux dire, on a un point qui est déjà assez avancé, c'est qu'on peut faire appel à des conseillers médicaux en environnement intérieur, donc ils vont venir conseiller, ou alors c'est carrément parce qu'il y a une pathologie qui a été détectée et c'est le médecin qui va demander à ce qu'il y ait un diagnostic du logement qui soit fait. Mais en anticipation, le premier des points, c'est que, vous disiez tout à l'heure, le mieux peut être l'ennemi du bien, mais dans ce cadre-là, on va avoir des appareils connectés qui vont nous donner des indications. L'important, c'est qu'elles soient des indications fiables.
Bien sûr.
Hein, et également pas discordantes. Mais par contre, à partir du moment où on a ces indications, nous, de notre côté, avec la PQAI, par exemple, on va aussi édicter les bonnes pratiques pour l'usager. C'est-à-dire que l'usager, c'est « Ah, je relève telle chose chez moi, mais comment je dois agir par rapport à celle-ci » Et ça va être une action qui va être quotidienne, mais qui va être vertueuse, parce qu'on va avoir l'impression de ne pas faire grand-chose, mais finalement d'avoir de grands bénéfices.
Mais on peut supposer aussi qu'il y ait des automatismes qui se mettent en place, au sens technologique de la chose, parce que chez soi, on n'est pas forcément un exégète de ces prises en compte, de savoir comment agir. Alors il y a effectivement quelques bonnes pratiques à avoir, mais savoir si je dois surventiler mon logement, si je dois l'aérer, ainsi de suite. On peut supposer qu'il y a aussi un acte, une chaîne de coordination qui se met en place au travers de solutions connectées.
Alors, au travers de ces solutions connectées, on a déjà, je parlais tout à l'heure des industriels qui font partie de la PQI, on a déjà certains qui ont cette adéquation entre ce qui est mesuré, ce qui est, je dirais, observé même, et ce qui va déclencher. Par exemple, même si on va plus loin maintenant sur de la ventilation, qu'elle soit double flux ou simple flux, on voit des matériels arriver qui vont augmenter les débits à partir du moment où on a un taux de CO ou un taux de polluant sur un certain niveau plus fort, et ça va automatiquement ventiler plus le logement. Donc là, c'est le cas de ce qu'on retrouvait dans un premier temps dans la ventilation Igro-B à l'époque. Hein. Plus il y avait d'humidité, le seul facteur, c'était l'humidité dans le logement. Maintenant, il n'y a plus que l'humidité. Il y a également, on considère le CO, on considère peut-être d'autres polluants en termes de COV. Et là,
COV
composé organique volatile.
Merci.
Voilà, ils sont assez impactants. Et de ce fait, un bon logement va être un logement qui va être à notre service. Ça, et c'est cette domotique, quelque part, qui va être à notre service sur ce sujet-là. La domotique, elle n'est pas là pour dire, ah, sur notre smartphone, tous les jours, on va regarder, on va piloter nous-mêmes. Non, il faut qu'elle soit...
Il faut qu'elle enclenche des choses.
Il faut qu'elle enclenche des choses, mais également, il faut quand même que, pour s'assurer que dans le temps, ce soit pérenne et qu'on en tire les enseignements en tant qu'usager, on puisse se dire ben, j'ai eu tel niveau, telle action a été faite et j'en suis aussi conscient moi-même et à mon niveau de rajouter du mieux.
Est-ce qu'on peut un peu simplifier, parce que si on parle d'organo-volatiles, si on parle de NOx, si on parle de CO, de CO2, quel est en fait le bon paramètre à mesurer dans le neuf et dans l'ancien pour être sûr de déclencher les bonnes actions?
Alors, le premier paramètre, c'est déjà celui de l'occupant. Donc, on va retrouver une température. On sait que la température va amener de la dilatation de matériaux et qui va faire du relargage. Donc là, c'est quelque chose où il faut limiter. C'est pas par hasard, on le dit de manière thermique, mais on le dit aussi de manière vertueuse. Nous, dans la qualité de l'air, 19 degrés, c'est la bonne température. Il ne faut pas passer à côté. Après, on va avoir des prises en compte de l'humidité. On doit tourner entre 30 et 60% de taux d'humidité dans un logement pour s'y trouver bien. Au-delà, et dans des logements qui soient confinés, on a vite des moisissures qui apparaissent, et donc là, c'est des affections que l'on imagine.
Oui, parce que la moisissure sur le mur, elle a un impact sur l'air que l'on respire.
Et oui, ce sont des bactéries avec des irritants. Des irritants, et puis des agents pathogènes qui vont faire réagir, si on est notamment asthmatique ou allergique, sur d'autres sujets. Ensuite, on va avoir le CO, le CO2, notamment. Ce CO2, c'est le gaz que l'on n'aimait nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, rien que par notre respiration. Et quand on a passé une nuit à dormir dans une pièce qui est fermée et que le taux a été assez élevé, peut-être se dire, si à un moment donné et sous quelles conditions on reventile, on va se retrouver mieux et peut-être pas se réveiller fatigué. Normalement, le propre d'avoir dormi, c'est d'être...
Normalement.
d'être en bonne forme. Et quelquefois, on se sent fatigué, lourdeur, mal de crâne, ou dans notre milieu de tous les jours, dans les bureaux, quelquefois, on se dit, on était 12 dans cette pièce, on a réfléchi, on a mal au crâne en sortant de la réunion. Non, c'est pas parce qu'on a réfléchi, notre cerveau il est habitué à ça, il a de grandes capacités d'ailleurs, mais par contre, on a un taux de CO qui a été trop élevé et on était en insuffisance. Donc on a des lourdeurs céphaliques qui apparaissent.
Oui, mais comme le disait Dominique, finalement, on n'a pas forcément l'envie, on n'a pas forcément la compétence pour dire j'ai tel ou tel composant qui est en surreprésentation dans mon atmosphère. Donc il faut bien qu'il y ait à la fois une mesure et des actions qui s'enclenchent automatiquement.
Alors, c'est pour ça justement que les appareils sont calibrés de cette manière, en sachant qu'il y a aussi des actions qui sont faites pour savoir qu'en termes de ventilation, à un certain seuil de CO, 2, en fait, ça va déclencher une surventilation du logement.
Est-ce que les paramètres à suivre sont les mêmes pour le neuf ou l'ancien?
Et les paramètres de la vie de l'occupant sont les mêmes.
Et les solutions sont les mêmes? C'est-à-dire que on évoquait, parce que c'est souvent évoqué, la notion de cette étanchéité de nos bâtiments récents et contemporains par rapport à des bâtiments anciens qui le sont beaucoup moins, avec parfois aussi des problématiques d'humidité, d'infiltration ou autres qui peuvent exister. Les solutions sont les mêmes? C'est le curseur qui se déplace finalement?
Exactement, puisque à partir du moment où vous êtes dans un bâtiment ancien et que vous voulez le rénover, vous allez appliquer à votre bâtiment ancien quelques mesures qui vont approcher, on va appliquer les mêmes règles qui vont nous amener comme si, à quelques usages près, comme si on était dans du neuf. On va vouloir isoler avec un certain niveau de performance, on va vouloir avoir des vitrages qui ont les mêmes performances, on va rechercher des équipements à l'intérieur qui soient de la même manière. Si on veut aller plus loin sur l'électrique, on va vouloir peut-être avoir des prises USB de branchement de notre smartphone ou de nos stations de contrôle, et ils vont être là aussi. Un bâtiment rénové, c'est ne serait-ce qu'un bâtiment neuf qu'on adapte.
Et alors, sur la notion de la prise en compte de cette problématique de qualité d'air intérieur, dans vos collèges, au sein de la PQAI, vous parliez tout à l'heure des consommateurs, des usagers, des occupants de logements. Vous sentez émerger des attentes par rapport à cela du grand public? Et côté professionnel également, est-ce que ce sont des sujets qui sont moteurs au sein des professions?
Alors, au sein des professions, évidemment que c'est moteur, puisque ça nous amène à réfléchir déjà maintenant sur notre conception et notre réalisation des bâtiments à venir. Et notamment, on sait que c'est réfléchi au niveau gouvernemental, donc c'est quelque chose qui avance et ça fait progresser tout le monde. Parce qu'on a aussi des techniques pour le monde du professionnel qui sont pas plus contraignantes de bien faire pour la qualité de l'air que ce qu'on pourrait faire à l'heure actuelle. Il suffit juste de changer un petit peu la manière de faire ou de l'adapter. On pense notamment à des réseaux de ventilation étanche pour s'assurer que toute la ventilation et l'air qui est brassé et qui est pris par le moteur de ventilation, il passe bien dans le logement au lieu d'être en partie à l'extérieur parce que le réseau a des fuites, que dans le logement. Et on préfère que tout passe bien dans le logement pour l'amener de manière beaucoup plus saine. En ce qui concerne l'usager, et là c'est quelque chose qui est pris en compte plus récemment, on voit l'évolution, moi ça fait un an et demi sur ce sujet, on reçoit des coups de fil à la PQAI de personnes qui ont le souhait de changer de logement ou d'acheter des logements ou acheter à certains endroits. On reçoit des coups de téléphone qui nous demandent est-ce que l'endroit où je vais faire construire, est-ce que l'endroit où j'achète le logement déjà existant est déjà sain dans l'environnement extérieur, puisqu'on sait qu'un environnement extérieur influe à 50% sur la qualité de l'air intérieur du logement.
C'est l'air qui y rentre.
C'est l'air qui y rentre. Évidemment, la plus grande bouteille, c'est la planète. Il faut y faire attention à notre planète. On le dira jamais assez. Et en ce qui concerne cela, les occupants nous demandent, mais est-ce que le bâtiment est bien conçu? Est-ce que les matériaux qui sont déjà dedans vont bien? Est-ce que, notamment, la zone périphérique va pas être avec des axes polluants? Si on a un vent dominant avec une usine un peu plus haut, qu'est-ce que ça implique? Et on a vraiment ces demandes qui émergent. Et j'avoue également que c'est une préoccupation des occupants qui ont des jeunes enfants. Hein, ceux qui m'ont principalement appelé sont des mamans.
Des jeunes parents.
Des jeunes parents qui m'ont appelé pour ça. Et encore récemment, même pour aller plus loin, une personne qui s'inquiétait de son voisin qui était fumeur apparemment à haute dose, puisqu'il s'inquiétait, il disait ma femme est asthmatique très grave et elle a vraiment des gros problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
D'accord. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qui monte en puissance alors.
Très vite, très fortement, oui.
Et donc, à court et moyen terme, comment vous voyez les choses, évoluer les choses sur ce plan-là? On parle que dans la future réglementation environnementale 2020 pour la construction des bâtiments, la notion de la qualité d'air intérieur serait prise en compte. Vous voyez cela comme quelque chose qui va véritablement changer, évoluer, une véritable prise en compte et des obligations derrière pour les constructions de logements?
Alors, c'est ce qu'on souhaite, des obligations. Après, des obligations de manière pragmatique. Hein, il faut pas
oui, pragmatique.
Faire...
Enfin, quand le terme obligation n'est peut-être pas forcément le bon terme, parce qu'il ne s'agit pas de faire du punitif, il s'agit vraiment d'être dans l'accompagnement et dans le mieux-être.
C'est ça. Le terme est vraiment le bon, c'est de l'accompagnement. Hein, on va aller vers de la sensibilisation et bien faire comprendre. Par exemple, on peut prendre un exemple que je connais bien quand j'étais chez les pompiers, c'est qu'à partir du moment où vous avez quelque chose, une affection en accident de voiture, vous avez, si personne vous voit, vous avez 2% de chance de vous en sortir. Si quelqu'un vous voit et a donné l'alerte, vous avez 50% de chance de vous en sortir. Ça veut dire tout simplement une chose, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'il y a quelque chose à faire, on va avoir tout l'ensemble de nos actions, peut-être pas parfaites, mais qui vont amener pour aller pour le bien faire. Et on sent à l'heure actuelle ce niveau qui est en train d'augmenter, de cette prise de conscience. Et ça, c'est le plus important. Et après, à nous de proposer les bons outils et les manières les plus ludiques et, je dirais, les plus facilement utilisables et préhensibles par les usagers pour cela. Mais le champ est relativement vaste et la RT a démarré en 73 et elle continue. Et la qualité de l'air, on peut dire qu'elle a démarré l'année dernière et on voit le champ des possibles vastes que l'on a devant nous. Mais par contre, il ne faut pas traîner. On est d'accord.
Bien, messieurs, on va malheureusement, je dirais, arriver au terme de cette émission. Je pense que l'on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais le temps nous est compté. Donc, merci à vous de ces échanges. Merci, Nicolas, de votre présence.
C'est moi qui vous remercie.
Dans cette émission. Et puis, Dominique Desmoulins, je vous propose de conclure cette 9e édition du Confort dans l'Habitat avec Promotelec.
Le Confort dans l'Habitat. Parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Moi, ce que je retiens un petit peu de ce que vous nous avez raconté, c'est que le brassage est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du volume d'air qui circule, et que parmi les paramètres essentiels, il y a bien la température, le pourcentage d'humidité, et le CO ou le CO2, je ne sais pas quel est le plus important, mais en fait, avec ces trois paramètres, globalement, on est capable de mesurer la qualité de l'air qu'on a chez nous, et d'y remédier de manière assez facile, avec des éléments simples qui sont à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est plutôt positif. Et l'autre élément, c'est que c'est une prise de conscience générale, sur attention, la qualité de l'air n'est pas toujours au rendez-vous et il faut y faire attention. C'est vraiment le futur.
C'est totalement ça. Et puis, pour ce qui est des autres types de polluants, bah, je dirais que c'est de la part des professionnels, justement, d'y faire très attention pour que l'usager ait à penser principalement et avant tout à sa manière d'être et à ses petits points qu'il va améliorer de jour en jour pour être encore mieux. Et ça, c'est accompagner et vraiment être prévenant, attentif à tout ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le Confort dans l'Habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio.